Vous expliquez qu'il ne faut pas seulement, Sylviane Agazinski, analyser l'islamisme via les vêtements, via le foulard, mais comme une culture de l'exclusion, de l'inégalité et de la discrimination des femmes. Ça, vous y attachez une importance particulière.
C'est ce que j'évoquais avec le virilisme. Alors, si je me suis vraiment passionnée pour ça, c'était l'autre face, au fond, de ma curiosité à l'égard de ce phénomène et de ce qui nous arrive. C'est que j'ai travaillé très très longtemps sur la question effectivement du rapport homme-femme dans la philosophie, dans la théologie, donc je connais bien le voile pré-chrétien, romain, les matrones qui ne doivent pas enlever leur voile en public sinon on risque d'être répudié, le voile chrétien de Tertullien qui demande aux chrétiennes de se voiler, le voile qui était en Arabie au deuxième siècle, bien avant l'islam, c'est pour ça que je dis ça vient du fond des temps, et puis finalement le voile islamique et le voile indo-pakistanais que j'appelle moi la culture du rideau, parce que le hijab ça veut dire aussi rideau, et c'était là en Indo-Pakistan, c'est ce qu'on appelle le purda, et qu'est-ce que c'est la culture du rideau dont le voile est l'une des pièces maîtresses? La culture du rideau, c'est la culture de séparation des hommes et des femmes, les femmes étant considérées comme dangereuses pour les hommes, source de désir, de concupiscence, etc. Et donc les hommes ne doivent pas voir les femmes, elles doivent être séparées. Il y a aussi des paravents, des moucharabias, etc. Et donc cette culture-là se traduit aussi par le voile, et les doctrines islamistes modernes que j'évoquais tout à l'heure ont relancé ça de manière très très forte après des moments où on avait eu, là je renvoie au livre sur les féministes arabes, vous avez peut-être lu ce livre de Leila Tawil, il y a eu un féminisme arabe aussi bien à l'époque des régimes laïques en Turquie ou en Égypte.
Mustafa Kemal en Turquie, voilà. Nasser en Égypte, et peut-être rappeler Bourguiba en Tunisie aussi.
Bien sûr, bien sûr. Et donc là, les femmes commençaient à vouloir se libérer, travailler, faire des études et enlever le voile. Et puis ensuite, il y a eu un retour de bâton terrible, justement, remettre les femmes à leur place pour les islamistes, c'est-à-dire les revoiler. Et moi, ce sur quoi j'insiste longuement dans le livre, j'ai pas le temps de développer, c'est qu'il faut bien comprendre, il s'agit pas effectivement d'un vêtement, il s'agit d'une pratique sociale du voilement. Ce sont les hommes qui voilent les femmes, c'est pas les femmes qui veulent se voiler. Et je vous donnerai une phrase qui me paraît tellement la clé, si vous voulez, de ce mode de pensée, c'est lorsque Sophie Bessis, par exemple, dit le drame, la tragédie même pour le monde musulman, c'est que l'honneur des hommes repose sur le corps des femmes. D'où aussi les crimes d'honneur, etc. C'est-à-dire que les femmes sont un bien précieux, mais un bien, et évidemment une propriété, et donc que les autres regardent votre femme, votre épouse, et vous êtes directement touché, directement déshonoré, littéralement.
Il faut ajouter à cela, Sylviane Agazinski, vous l'expliquez dans le livre, la rhétorique qui est utilisée par les islamistes. C'est très important, vous écrivez que les islamistes affirment qu'il faut arrêter de dire que les femmes portent le voile pour des raisons religieuses, mais qu'il faut dire qu'elles le portent par choix, par expression individuelle. En fait, que c'est leur liberté de choix. Cet argument, et c'est là où c'est cynique et efficace, je veux dire malheureusement, il porte. Sa stratégie, elle porte notamment
oui,
en termes de droit.
Et oui, elle touche nos principes. La liberté de penser, la liberté de croire, la liberté aussi
on
de
y
s'habiller
est sensible.
Dans une certaine mesure, comme on veut. Mais moi, j'ai découvert avec intérêt qu'effectivement, le thème de la liberté individuelle a été lancé par les islamistes eux-mêmes. Évidemment, un certain nombre de gens sont tombés dans le panneau en disant « ben oui, après tout, on est libre ». Mais le sujet est assez mal vu, d'une part parce qu'on a traité trop ce sujet du point de vue de la simple laïcité, c'est-à-dire d'un signe religieux. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, c'est que c'est un emblème politico-religieux. C'est l'emblème d'une doctrine qui veut, prenez le slogan, si je puis dire, des frères musulmans, c'est le Coran et notre constitution. Et il s'agit au fond, notamment pour les frères musulmans, par exemple, mais aussi pour les salafistes. Mais pour les frères, il s'agit au fond de réislamiser les sociétés. Et cette réislamisation, elle passe par le voile. Et le voile, alors disons-le pour résumer, aujourd'hui, c'est le drapeau des islamistes et c'est pas autre chose. Si bien qu'il doit être traité comme un signe politico-religieux et pas simplement religieux.
Et d'autre part
comme une pratique absolument solidaire d'un droit de la famille.